Voilà, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 1 à 10. Nous allons faire cette lecture juste pour comprendre, voilà, la pensée qui se dégagera de cette lecture. L'épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous lisons ceci. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. En toute humilité, Seigneur, je me tiens devant toi et devant ta parole, Seigneur. Et nous voulons tous ensemble, c'est vrai, Seigneur, oui, incliner nos cœurs devant toi pour encore et reconnaître que tu veux parler à nos cœurs ce matin. Alors, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ouvre notre entendement, Seigneur, et fais-nous réaliser réellement ce que tu es et ce que tu veux, Seigneur, nous donner ce matin. Nous bénissons ton nom et te rendons gloire pour ta parole, Seigneur. Amen. Voilà une lecture que nous avons faite dans cette épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul qui s'adresse à ces chrétiens, comme nous également ce matin. Paul, par ce passage, montre sa joie et fait l'éloge de ses bien-aimés. Il se réjouit de la vie nouvelle des chrétiens de Thessalonique en Christ. Vous savez, il y a de quoi se réjouir pour un pasteur de voir les brebis se réjouir dans le Seigneur. Il y a de la joie dans le cœur, voilà, du serviteur de Dieu de constater les progrès que font les frères et sœurs dans l'Église. Et lorsqu'on réalise des progrès, que fait le pasteur, que fait le berger? Il ne fait qu'exhorter, il ne fait qu'encourager, il ne fait que amener le peuple à réaliser réellement que le travail n'est pas vain, mais le travail, il se fait par l'Esprit. Dans le Seigneur. Paul nous montre par ce passage quelques hommes, quelques femmes qui vont avoir une influence dans leur entourage. Vous savez, dans notre monde, beaucoup d'hommes sont influents dans notre monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'influence autour de nous, qui ont un tel impact autour de nous, au point que l'on parle d'eux à chaque instant. Beaucoup d'hommes, voilà, ont eu telle influence que parfois même, sans voir la personne en face, quand on entend le nom de la personne, on sait qui il est, on sait qui elle est réellement. À cause de l'influence qu'elle peut avoir sur la société, qu'elle peut avoir sur les hommes, sur les femmes. Et autant notre monde est gorgé, voilà, d'hommes influents, Nous pouvons réaliser qu'en dépit de tout, de toute cette influence, en dépit de tout cet impact que les hommes peuvent avoir sur la terre, aucun homme ne peut avoir une influence dans le cœur des hommes. Aucun homme, voilà, humainement parlant, ne pourra être aussi influent que ce que Paul va montrer concernant les chrétiens de Thessalonique. Vous savez, si Paul rend grâce au Seigneur de la foi, si Paul rend grâce au Seigneur de l'œuvre que voilà, l'Esprit a accomplie dans la vie de ces hommes, de ces femmes, c'est qu'auparavant, il y a eu une œuvre de transformation merveilleuse de la part du Seigneur. Il va y avoir un travail au fond des cœurs, de sorte que ce qu'ils vont vivre au-dedans d'eux ne pouvait pas rester coincé au-dedans. Vous savez, quand le Seigneur voilà, fait une œuvre dans nos cœurs, lorsqu'il y a une transformation quelconque, nous avons beau vouloir le cacher, mais cela ne peut être caché. Nous avons beau vouloir camoufler ces choses, mais puisque l'Esprit travaille en nous, puisqu'il y a réellement un impact de la puissance du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas le cacher. Cela se voit de l'extérieur. Et le chrétien, voilà, la vie du chrétien doit être ainsi. La vie du chrétien doit avoir un tel impact, premièrement, dans notre propre vie et également autour de ceux qui nous regardent. On n'ignore pas que avant que nous venions au Seigneur, nous ne connaissions pas le Seigneur. Paul mentionne ici quelque chose de merveilleux. Il commence par faire l'éloge, par montrer comment réellement la joie qui est dans son cœur au regard de ce que vivent voilà, ces chrétiens de Thessalonique. Mais au verset 9, Paul montre réellement qu'avant d'arriver à là, il y a eu quand même le miracle du Seigneur. Autrefois, ces hommes étaient sans Dieu. Comme nous également, avant de rencontrer le Seigneur, nous marchions, comme Paul va le dire aux Éphésiens au chapitre 2, nous étions sous l'influence du monde. Nous étions sous l'autorité du prince des ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est venu percuter nos cœurs. Son amour nous a confondus. Et cela va être le cas de ces chrétiens de Thessalonique. Autrefois, nous dit au verset 9, ils servaient des idoles. Ce qui représentait un Dieu pour eux, c'était leurs idoles. Ce qu'ils vénéraient, ce n'était pas le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu plein d'amour, mais c'était ces idoles qu'ils avaient fabriquées, ces dieux qui existent, mais qui ne vivent pas. Ces dieux qui sont là, mais qui ne peuvent prêter secours à aucun homme. Mais à cause réellement, voilà, de l'action du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes, ils vont réaliser que toutes ces idoles n'étaient que néant. Toutes ces idoles n'étaient que vanité. Puisque au contact de la parole, ils vont réaliser réellement qui est Dieu, ce Dieu véritable, ce Dieu plein d'amour. Je me rappelle comme hier, le jour où le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur. Quand bien même je suis né dans une famille chrétienne, je vivais comme bon me semblait. J'étais là, oui, comme tout enfant, voilà, de chrétien, dans les réunions, dans les assemblées. Mais ma vie n'était pas en règle avec le Seigneur. Il a fallu un jour, parce qu'en ce moment, voilà, le Dieu, mon Dieu, c'était moi-même. Il n'y avait que moi. Ma vie ne tournait, voilà, que sur moi-même. Mais le Seigneur m'a fait réaliser une chose. Soit j'acceptais réellement de m'effacer afin que lui, il soit vu au travers de ma vie, ou soit je continue à vivre ma vie comme bon me semblait, et alors je passerai à côté de tout ce qu'il a planifié pour moi. Voyez-vous, devant le Seigneur, nous avons toujours un choix. Parce que comme l'a dit le pasteur, le Seigneur ne force personne. Il ne forcera jamais personne. Mais ce que le Seigneur fait, il nous confond par son amour. Ce que le Seigneur fait, il vient réellement, voilà, nous éclairer par sa parole. Oui, ces chrétiens, voilà, de Thessalonique, Paul va dire, car on rend compte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous savez, en lisant ces paroles, parfois quand on lit la parole de Dieu, il est bon de s'attarder. Même si c'est sur un verset, même si cela va nous prendre des heures, il est bon de s'attarder et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par rapport à ces mots? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Quel enseignement, voilà, veux-tu nous donner pour que nous puissions réellement grandir avec toi? Paul mentionne quelque chose de merveilleux. Ces chrétiens vont à l'écoute de la parole, vont faire demi-tour, alors qu'ils étaient là en train d'adorer les idoles, alors qu'ils étaient là en train de vénérer, de contempler ces choses qu'ils ont fabriquées, ces choses qui existent et qui ne peuvent même pas donner la vie, ne peuvent point parler, ne peuvent point entendre. À l'écoute de la parole, ils ont été au contact de ce Dieu merveilleux. À l'écoute de la parole, ils ont été au contact de ce Dieu rempli d'amour, de ce Dieu compatissant, de ce Dieu, voilà, qui prend soin de ses enfants. Et ils vont réaliser de suite qu'il y a quelque chose de merveilleux en Dieu. Il y a quelque chose de plus précieux que les idoles. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il prêchait le message de la repentance. Partout où Jésus passait, il incitait les hommes et les femmes à se détourner de leur mauvaise voie. C'est ça la repentance. Réaliser qui est Dieu, l'amour de Dieu pour nos vies, et se dire, Seigneur, j'étais sur ce chemin de perdition. J'étais sur ce chemin qui me menait nulle part ailleurs qu'en enfer. Mais ayant réalisé ton amour, Seigneur, oh, je me rappelle, je sais qu'à la croix, tu as frayé notre chemin. À la croix, oui, voilà, tu as pris ma main et tu l'as placée dans la main de Dieu pour que je puisse retrouver la communion perdue à cause du péché. À la croix, Seigneur, tu as frayé un chemin nouveau pour moi. Et je réalise que le chemin que j'empruntais hier, si je continue, si je perdure sur ce chemin, Seigneur, ça sera une ruine éternelle pour moi. Mais je réalise, Seigneur, que ce nouveau chemin que tu as frayé, elle peut paraître étroite, Seigneur. Ce chemin, il est étroit. La porte, elle est étroite, Seigneur. Mais je veux m'efforcer de marcher pour être au contact de ce Dieu merveilleux. Et même les disciples, les apôtres, vont tout au long de leur ministère prêcher ce message de la repentance. Vous savez, on pourra se poser la question, comment se fait-il que ces chrétiens de Thessalonique vont réellement avoir un impact? Puisque Paul va dire ceci, au verset 7, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Et au verset 8, il dit seulement, « Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. » Sans pour autant être orgueilleux, frères et sœurs, j'aimerais vivre ce que ces chrétiens de Thessalonique ont vécu. J'aimerais aujourd'hui encore dire, Seigneur, que cela ne soit pas une simple lecture pour nous aujourd'hui. Tu ne nous as pas simplement donné ta parole pour que nous puissions simplement la lire, mais tu nous as laissé ta parole comme modèle. Tu nous as laissé ta parole, Seigneur, pour nous montrer le chemin que nous pouvons emprunter. Vous savez, le moyen réellement de la connaissance de ce Dieu véritable et vrai, c'était la parole de Dieu. Vous savez, Paul va dire, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Il va continuer de dire, non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Parce que pour que la foi naisse, il faudrait au préalable que nous soyons au contact de la parole. Paul va dire dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a dans notre monde, il y a beaucoup d'hommes influents. Il y a beaucoup d'hommes qui ont un impact, mais quelle que soit leur influence, quel que soit l'impact qu'ils peuvent avoir, ils sont peut-être éloquents. Ils ont peut-être l'habileté réellement de tourner les choses, mais aucun homme, aucune parole d'homme ne pourra toucher la conscience humaine. C'est seulement la parole de Dieu qui peut changer notre mentalité. C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous amener à nous détourner de nos mauvaises voies. Vous savez, quand Paul va dire « Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations », je me suis hasardé un peu sur cette phrase de Paul. Et je me suis dit « Seigneur, quel impact réellement a ta parole dans ma vie et dans nos vies en tant qu'enfant de Dieu ?» Vous savez, recevoir la parole de Dieu, comme Paul va le dire, au milieu de beaucoup de tribulations, cela montre, il va ajouter quelque chose de merveilleux, avec la joie du Saint-Esprit. Cela montre à quel point le salut était réel pour ces chrétiens. Ce n'était pas un salut éphémère. Parce que vous savez, quand on fait une réelle rencontre avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances par lesquelles nous traversons, nous pouvons dire, Seigneur, en dépit de toutes ces choses, je sais que tu es plus grand que ce que je traverse. Je sais que tu es plus puissant, Seigneur, et celui qui peut aplanir les montagnes, il est capable, puisqu'il est souverain, il me fera traverser ces épreuves. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je me mets dans le lot que vous. Et j'aimerais que nous puissions réaliser que si parfois nous traversons des souffrances, des difficultés, ne nous empressons pas si tôt de demander au Seigneur, fais-nous sortir de ces souffrances. Parce que parfois, parce qu'au travers de la parole de Dieu, nous voyons réellement que si Dieu a permis qu'il y ait des souffrances, si Dieu a permis qu'il y ait parfois des tribulations, c'était dans le but d'amener le peuple à faire confiance à ce Dieu vivant et vrai. C'était dans le but réellement d'amener le peuple, non pas à avoir les regards tournés, fixés sur ce que nous voyons autour de nous, mais à contempler la grandeur de notre Dieu. Donc voyez pourquoi, franchement, parfois quand nous avons des souffrances, parfois vite on se met à jeûner, on dit « Seigneur, délivre-moi de cela ». Au lieu, nous pouvons dire « Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. » Les chrétiens de Thessalonique, ils vont réellement recevoir la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu en toute liberté. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous ne savons pas réellement, quel temps nous allons vivre demain. Alors, si nous recevons la parole, à la légère, et la clé réellement se trouve au chapitre 2, verset 13. Et Paul va dire ceci, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, écoutez bien frères et sœurs, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Vous savez, la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Elle déterminera l'impact que cette parole aura dans nos vies. La manière dont nous recevons la parole de Dieu déterminera l'impact que nous allons avoir dans la société humaine. Si nous recevons la parole comme une parole d'homme, elle n'aura aucun effet dans notre vie. Elle pourra peut-être stimuler nos sentiments. Mais vous savez, avec le Seigneur, ce ne sont pas des sentiments. Mais seule la parole de Dieu est capable réellement d'aller au plus profond des cœurs et nous faire réaliser ce que nous sommes. Puisque l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire au chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Oui, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et qu'est-ce qu'elle fait cette parole? Elle va pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et c'est elle qui va juger les sentiments et les pensées des cœurs. Aucune pensée d'homme ne pourra faire ce que la parole de Dieu peut faire dans nos vies. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter ce matin à réellement considérer la parole telle qu'elle est. Et ignorez-moi ce matin, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ignorez-moi ce matin. Je ne suis pas là pour me montrer devant vous. Je ne suis rien. Mais je suis là simplement pour que nous puissions réaliser la grâce que nous avons. Quand le Seigneur Jésus va accepter de souffrir, de mourir à la croix, jusqu'au point réellement que Dieu va nous donner sa parole. Quelle grâce pour nous. Et j'aimerais, c'est vrai, au travers de cette méditation, que nous réalisions qu'il y a quelque chose de plus important dans la société aujourd'hui. Il y a quelque chose, de merveilleux, c'est la parole de Dieu. L'impact que nous aurons dans notre société, il proviendra de l'impact que la parole de Dieu aura dans notre vie. Comme je l'ai dit, on peut par notre habileté, on peut par notre intelligence bourrer l'esprit des gens. Mais selon ma chair, je ne pourrai jamais amener quelqu'un à la vraie repentance. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, au travers de la parole, que je vais déjà laisser agir au plus profond de moi. Le travail se fait d'abord à l'intérieur de moi. Le travail se fait d'abord en moi. Il va falloir réellement que d'abord je me laisse pénétrer par la parole. Si cette parole n'a aucun effet dans ma vie, ce que je vais dire, même si elle vient de la parole de Dieu, elle n'aura aucun effet dans la vie des autres. Il va falloir déjà que la parole de Dieu ait un effet dans ma vie, que je vive par la parole, que je marche par elle, oui, afin qu'elle puisse avoir de l'impact. Vous savez, la meilleure évangélisation, ce n'est pas ce que je vais dire. Le meilleur témoignage, ce n'est pas ce que je vais dire, mais c'est ce que je suis. C'est ce que je vis. Et si je vis réellement la parole de Dieu, cela aura un impact. Paul va dire quelque chose de merveilleux dans Galates. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On ne réalise pas l'impact de cette parole de Paul. Ce n'était pas des paroles qu'il a prononcées à la légère comme ça. On sait déjà qui était Paul. Paul, avant sa rencontre avec le Seigneur, qui était cet homme? Celui-là qui persécutait l'Église. Celui-là qui ne faisait aucun cas réellement de ce que les disciples faisaient. Parce qu'il mettait en avant sa religion. Mais le jour réellement où il va faire une rencontre réelle avec le Seigneur, Le jour où la parole de Dieu va l'éclairer sur ce qu'il est et sur ce que Dieu est, ce jour-là, il va apprendre à mourir à lui-même. Il va apprendre, Paul, à laisser sa propre personne et à considérer la personne du Seigneur. Et aujourd'hui, si nous voulons avoir un impact dans notre société, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ce que nous devons vivre. C'est ce que nous devons dire, Seigneur, oui, comme Jean-Baptiste va dire, il faut que je diminue et qu'il croisse. Il faut que je m'efface, Seigneur, pour que tu puisses prendre vie en moi. Oui, Paul va dire, il faut qu'il, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, la nouvelle vie des chrétiens de Thessalonique, elle a pour fondement deux relations. Et Paul va, déjà au verset 1, Paul va dire ceci. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le Seigneur. On pourrait se poser la question, pourquoi Paul n'a pas dit en Jésus-Christ le Sauveur? Puisque Jésus, il est le même, il est notre Sauveur. Mais Paul montre quand même qu'il y a une dimension de vie à laquelle le Seigneur veut nous entraîner. Le Seigneur, Jésus n'est pas simplement venu pour nous sauver. Le salut, c'est quelque chose. Mais la vie avec Dieu, c'en est une autre. Parce que beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui, voilà, qu'on peut, il suffit simplement d'être sauvé et de vivre comme bon nous semble. Alors que la parole de Dieu me dit tout le contraire. Une fois sauvé, je dois livrer ma vie à celui qui m'a sauvé. Une fois sauvé, je dois réaliser que ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie appartient à celui-là qui m'a sauvé. Une fois sauvé, je dois réaliser qu'avant d'être sauvé, j'étais sous l'autorité d'un autre. Paul va le décrire dans relisez l'épître de Paul aux Éphésiens. Au chapitre 2, Paul va montrer quelque chose de merveilleux. Il va montrer à quel point, sans Dieu, nous étions sous l'autorité du prince des ténèbres. Et à cause de cela, nous étions enfants de colère, nous étions ennemis de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus, par la grâce de Dieu, je dis bien en Jésus, oui, Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, va réellement détourner la colère de Dieu qui devait s'abattre sur nous. Au travers de la croix, il y a quelque chose de merveilleux parce que Jésus, au travers de la croix, va amener l'humain à rencontrer le divin. Chose impossible humainement parlant. Mais Jésus, au travers de son œuvre à la croix, va nous amener à réaliser réellement que s'il nous a fait sortir de la puissance des ténèbres, si autrefois nous étions sous la coupe du prince des ténèbres, par amour, il est venu nous sauver. Et à cause de cela, nous devons être aujourd'hui sous son autorité. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce mot « autorité du Seigneur ». Vous savez, nous sommes dans un monde où l'autorité n'a plus d'importance aux yeux des hommes. Nous sommes dans un monde où on ne veut même plus parler d'autorité. De suite, quand on parle d'autorité, les gens voient, ils réalisent réellement qu'ils n'ont plus de liberté. Quand on parle d'autorité, les gens voient esclavage. Oui, l'autorité humaine, c'est ce à quoi ça nous entraîne. Mais l'autorité de Dieu, c'en est une autre. Il y a la semaine dernière, quand j'ai appelé le frère pour dire que c'était OK pour moi de venir, il me disait, oui, comment je vais être annoncé? Je dis, montre-moi simplement comme un esclave du Seigneur. présente-moi comme un esclave. On se rend pas, et on était en train de parler, oui, à cause de Jésus, je suis esclave, mais volontairement. Je deviens esclave de Dieu volontairement. Parce que voilà, ce qui m'a servi, c'est ce qui m'est retenu. Jésus, il va briser les chaînes. Il va nous libérer. Il est dit, si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Mais vous savez, Paul va dire aux Galates, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Ce n'est pas parce que Jésus nous a libérés que nous pouvons nous détacher de son autorité. Jésus nous libère de la colère de Dieu. Jésus nous a libérés de la condamnation. Jésus nous a libérés, voilà, de la ruine éternelle. Mais Jésus voudrait que nous soyons toujours sous son autorité. Et vous savez, Paul va dire ceci, oui, en Jésus, le Seigneur. Mais auparavant, Paul va montrer réellement Dieu comme Père. Dieu comme Père. Vous savez, au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu se fait connaître à nous comme Père. Jésus va dire dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. » Pourquoi Jésus n'a pas dit « Nul ne vient à Dieu » ? Jésus va dire « Nul ne vient au Père. » Cela montre à quel point encore là, quand Jésus nous sauve, c'est pour nous amener encore dans une autre dimension de vie, dans une intimité, dans une proximité avec la personne de Dieu. Pas un Dieu lointain comme certains le croient, pas un Dieu voilà, qui punit. Bien sûr, parfois le Seigneur est obligé d'agir à cause du péché. Mais le Seigneur, est, Dieu, c'est ce Dieu plein d'amour, plein de compassion. Et celui réellement qui réalise ce qu'il est et vient devant lui, il reçoit le pardon de ses péchés. Voyez-vous, j'aimerais dire, voilà, vouloir connaître Dieu comme Père et ne pas accepter Jésus comme Seigneur n'est qu'une aberration. Oui, on veut Seigneur, oui, tu es notre Père. Mais lorsqu'il s'agit de dire, on le chante, tu es notre Seigneur, mais est-ce que réellement c'est une réalité dans nos vies? C'est facile de le chanter. C'est facile de le dire. Mais est-ce que ma vie démontre réellement que Jésus est celui qui a l'autorité absolue sur ma vie? Vous savez, en acceptant la parole de Dieu, non comme la parole des hommes, elle nous amène toujours à Christ, au point que notre vie reflète celle du Seigneur. Paul va dire, oui, au verset 6 et 8, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Vous savez, on doit voir les caractéristiques de réellement, les caractères de Christ en nous. Et quand Paul va louer, rendre grâce à Dieu pour ses chrétiens. Il y avait quand même quelque chose de merveilleux. Parce que lorsqu'ils vont être réellement éclairés par la parole de Dieu, lorsqu'ils vont reconnaître l'autorité absolue de Dieu sur leur vie, ils vont laisser réellement cette parole s'enraciner en eux. Cette parole est venue transformer leur existence au point qu'ils vont avoir un impact dans la société. Ils vont réellement, ils vont pouvoir laisser leur empreinte dans la société des hommes. Vous savez, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous sauve pas simplement pour que nous restions cloisonnés dans nos murs. Mais si le Seigneur nous appelle, c'est parce que il y a encore, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il y a des âmes à sauver. Dans la prière, dans Jean 17, non seulement Jésus priait pour l'Église, non seulement Jésus priait, voilà, pour nous, mais Jésus va dire quelque chose d'autre. Je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie encore pour ceux qui sont au dehors, que je veux faire entrer dans la bergerie. Oui, c'est... Et à cause de cela, parce que, voilà, Jésus nous a sauvés. Nous sommes là pour être les modèles au travers de la parole de Dieu. Oui, Jésus n'est plus là physiquement, mais son esprit est là. Mais nous sommes de ceux-là que Dieu veut se servir pour interpeller ceux du monde. Oui, c'est que ces chrétiens de Thessalonique avaient tellement... L'impact de la parole était tellement forte dans leur vie. Il y avait une telle autorité qu'ils vont devenir des modèles. Et avant de devenir un modèle, il a fallu qu'ils soient des imitateurs, des apôtres et du Seigneur. Vous savez, dans Actes 1:8, Jésus va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. On connaît ce verset. Vous savez, quand ils vont imiter les apôtres et Jésus, ils vont avoir un impact sur le plan local. Puisque Paul va dire, vous avez été un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, de l'Achaïe. Mais quelque chose, et votre, au verset 8, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Quand Jésus demandait à ses disciples de recevoir la puissance, d'abord, ils ne recevaient pas la puissance pour aller de suite aux extrémités de la terre. Ils devaient d'abord être des témoins autour d'eux. Parfois, nous faisons cet amalgame. On veut tellement impacter ceux du monde tout en oubliant que même dans nos familles, nous devons d'abord être ses témoins. Même chez nous, nous devons d'abord refléter la personne de Dieu. À quoi sert de vouloir être un témoin au dehors si dans ma famille, je ne suis pas un témoin? À quoi sert, vouloir jouer, avoir une apparence quelconque aux yeux de ceux-là qui ne me voient pas vivre au quotidien? D'abord, il a fallu qu'ils impactent la Macédoine et l'Achaïe, et ensuite, leur foi va s'étendre en tout lieu. Voyez pourquoi, frères et sœurs, on a besoin réellement de laisser le Seigneur travailler nos vies. On a besoin réellement de laisser l'impact de la puissance du Saint-Esprit s'étendre sur toutes nos vies, au point que ceux-là qui nous regardent, ceux que nous côtoyons tous les jours à l'école, dans les facultés, dans nos lieux de travail, mais d'abord chez nous à la maison, puissent dire, oui, cet homme, cette femme ne vit plus pour lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Oh, combien on a besoin réellement de ces choses. Et la motivation, vous savez, ils n'étaient pas là seulement ces chrétiens de Thessalonique, juste pour recevoir la parole. Oui, au verset 9 et 10, Paul dira ceci. Après avoir été converti et ayant vouloir servir le Seigneur, il y a quand même encore quelque chose de merveilleux. Paul va dire ceci. Et pour atteindre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, et je termine par là. Il y avait une attente du Seigneur. Vous savez, quand l'Église n'a pas la perspective du retour du Seigneur, on perd notre vocation. Je ne parle pas de ces gens-là qui parlent tellement du retour du Seigneur, qui veulent des enseignements. Oui, ces choses sont réelles. Mais vous savez, avant le retour du Seigneur, il y a encore un travail à faire sur la terre. À quoi sert nous remplir la tête sur les choses concernant le retour du Seigneur alors que notre vie n'est pas en adéquation avec ce que la parole de Dieu nous demande. Puisque si nous ne vivons pas comme la parole de Dieu nous demande, il doit y avoir de la crainte dans nos cœurs concernant le retour du Seigneur. Parce que si le Seigneur vient, qui va-t-il prendre? Je me rappelle de ce pasteur à l'école biblique qui nous disait ceci: même dans l'église, il y a l'église. Ce qui veut dire que, et je ne voudrais pas faire peur à quelqu'un d'autre, même Jésus va dire: ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. C'est pour nous amener à réaliser que la vie avec Dieu, c'est du sérieux. La vie avec Dieu, ce n'est pas de l'apparence. Et voyez-vous, ces hommes vont avoir l'espérance réellement du retour du Seigneur. Et parce qu'ils avaient cette espérance, vous savez, le retour du Seigneur, voilà, ça doit produire de la joie dans nos cœurs. Mais j'aimerais dire, ça doit aussi produire de la tristesse. Pourquoi? Parce que si Jésus vient aujourd'hui, imaginez si Jésus venait aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes seraient voués à la perdition éternelle, même dans nos familles. Voilà pourquoi, avec la perspective du retour du Seigneur, nous devons dire: Seigneur, en attendant ton retour, fais de moi un modèle. Je veux vivre, viens vivre ta vie en moi, afin qu'au travers de ma vie, ceux qui me regardent soient touchés, au point de dire: oui, je veux de cette vie-là. Je ne veux plus de ma vie, mais je veux de la vie que toi tu donnes pour pouvoir être enlevé avec toi. Paul, je termine avec ce verset dans 2 Corinthiens 2, 14, 16, où Paul va dire en parlant: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Amen. Oui, nous sommes la bonne odeur de Christ et nous devons l'être. Et ce matin, si réellement ma vie n'est pas en règle avec le Seigneur, sans culpabiliser qui que ce soit, mettons-nous à genoux. Et disons: Seigneur, je veux régler ma vie devant toi. Je ne veux plus vivre comme bon me semble, mais je veux pouvoir déclarer, proclamer comme Paul: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, quand une odeur, elle se sent même de très loin. Il y a des odeurs fortes. Et humainement parlant, nous dégageons des odeurs. Mais l'odeur réellement de Christ, c'est quelque chose de merveilleux. L'odeur de Christ, voilà, Paul va dire, voilà, une odeur de mort donnant la mort pour ceux-là qui ne vont pas accepter. Mais une odeur de vie pour ceux-là qui vont réellement, comme ces chrétiens de Thessalonique et comme beaucoup d'entre nous ce matin, qui vont réaliser réellement que Dieu le Père, par amour, a envoyé Jésus, son Fils, mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et à cause de cela, il me demande de marcher en nouveauté de vie. Il voudrait que ma vie soit conforme à ses préceptes, à sa parole, afin réellement de pouvoir être un témoin, un modèle dans notre société d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à réaliser ces choses. Et que réellement l'Esprit de Dieu, dans notre méditation, laissons le Seigneur nous interpeller sur ces choses. Parce que nous avons besoin encore que notre monde soit impacté. On le chante: oui, je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus. Mais avant de pouvoir le faire, nous avons notre part de responsabilité. Vivre dans une nouveauté de vie. Marcher comme Dieu le veut pour que son nom soit glorifié. Paul va dire: oui, on raconte à notre sujet de telle sorte que votre foi s'est étendue en tout lieu. Ne voulez-vous pas que dans cette ville ici à Isra, on parle de cette assemblée. De cette assemblée où il y a la vie. De cette assemblée où quand quelqu'un franchit le seuil de cette porte, c'est l'Esprit de Dieu qui touche la personne. Voyez, c'est pour cela que nous avons tous besoin. Et je me mets avec vous. J'ai autant besoin que vous. Que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous transforme. On a besoin de ces choses, frères et sœurs. Excusez-moi d'avoir débordé un peu. Mais cela était quand même quelque chose de fort dans mon cœur que le Seigneur m'a donné. Et vous savez, peut-être que vous avez entendu une prédication sur ça. Mais si le Seigneur nous permet encore d'entendre ces choses, c'est pour nous amener à réaliser un certain nombre de choses. Comme ces chrétiens de Thessalonique, ne recevons pas la parole de Dieu en vain. Recevons-la réellement comme la parole de Dieu. Et elle aura l'impact qu'elle doit avoir d'abord dans nos vies. Et après, le Seigneur nous permettra d'avoir un impact que lui, il veut autour de nous pour que des vies soient sauvées à la louange et à la gloire de son nom. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Nous sommes émerveillés, Seigneur, de ton œuvre dans la vie des hommes. Nous sommes émerveillés par ton amour, un amour si puissant, si fort, un amour si grand, Seigneur, un amour que nous ne pouvons même pas sonder, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, nous tenons devant toi ce matin et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, fléchir le genou, demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, c'est vrai, pour les fois où je n'ai pas été à la hauteur, Seigneur. Pardonne-nous pour les fois, Seigneur, où nous avons vécu comme bon nous semblait, Seigneur, au lieu réellement de te laisser vivre ta vie en nous. Seigneur, s'il te plaît, viens nous remuer encore ce matin. Viens nous amener à réaliser, c'est vrai, que tu veux te servir de nous, Seigneur, pour impacter nos familles, pour impacter, Seigneur, notre société, Seigneur. Et à cause de cela, Père éternel, nous avons besoin d'abord de l'impact, Seigneur, du Saint-Esprit dans nos vies. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, interviens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'il y a quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est dans l'attente réellement, oui, de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Ouvre les écluses de ton ciel, Seigneur, et déverse sur ton peuple, sur cette assemblée, Seigneur, ces langues de feu, Seigneur, mon Dieu. Baptise du Saint-Esprit. Oh, combien on a besoin réellement de cette puissance, Seigneur, pour nous amener, c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, à marcher sur des chemins tout tracés. Oh, Père éternel, je te rends grâce et je te bénis pour ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse réellement, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous amener à réaliser qui tu es. Est-ce que tu veux faire en nous et au travers de nos vies? Amen.